suis très content d'être avec vous, d'avoir déjà pu commencer à échanger ce matin. Je me disais en vous écoutant en ce début d'après-midi que finalement, c'était peut-être à cause de Goffman que j'étais devenu anthropologue, parce que j'avais commencé par plus classiquement par la sociologie, mais qui était très bourdieusienne, pour ne pas dire bourdivine, au sens le plus terrible du terme. Et du coup, je me retrouvais sans doute plus dans une méthode que Goffman n'aurait pas reniée, l'anthropologie. Je vous parlerai, alors, j'ai découvert Goffman par Stigmate, qui me semble pour moi être le trait d'union, parce que dans Stigmate, il y a finalement tout ce qu'on va retrouver dans le reste de son œuvre, c'est-à-dire l'importance du signe. Voilà, donc je vous en parlerai peut-être un peu plus précisément. Et en introduction, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire que m'a racontée une étudiante il y a quelques années déjà, qui s'appelle Rachel. Rachel, elle travaille en France, dans un petit village alsacien qui s'appelle Turckheim, dans une MAS, c'est-à-dire une maison d'accueil spécialisée. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les MAS en France, c'est le bout de la chaîne dans la prise en charge du handicap. C'est le lieu d'accueil d'adultes polis, plurihandicapés. Et ce sont souvent des femmes très mal payées qui font les petits niveaux du travail social, qui s'occupent de ces personnes. Il y a un turnover terrifiant. Les gens se cassent le dos parce qu'il y a beaucoup de portages, puisque certains adultes sont grabataires. Rachel fait partie de ces rares éducatrices qui ne s'usent pas parce qu'elle a un bon feeling avec ce public. Et ça se passe bien. Et notamment, elle me raconte qu'elle est référente d'un adulte qui était un peu régressif. Voilà, il était un peu énurétique et puis il était devenu un peu encoprétique. Mais grâce à la bienveillance de Rachel, tout d'un coup, ce résident fait un petit peu des progrès, il va un petit peu mieux, il sourit un petit peu. Et donc, elle propose quelque chose à son chef de service, c'est de fêter dignement l'anniversaire tout proche de ce monsieur et de l'emmener dans le petit village de Turckheim, dans un salon. Aussitôt dit, aussitôt fait, avec la bénédiction de son chef de service, elle prend la voiture de service, elle part à Turckheim. Elle arrive dans un salon thé qui est désert, mais le patron, en la voyant arriver avec son petit Quasimodo, se précipite en disant: « Non, non, ça va pas être possible, j'attends du monde, je suis désolé. » Rachel a bien compris, elle est habituée des sorties avec des personnes en situation de handicap lourd, qui sont pas très bien accueillies ou parfois mises dans un coin pour pas gêner le chaland. Elle va dans un autre salon de thé. Et là, tout se passe à merveille. Elle est accueillie merveilleusement bien par la patronne en personne qui vient apporter les gâteaux, le thé. Et Rachel lui fait part de ce qui lui est arrivé en disant: « Merci madame, parce que chez votre concurrent, 200 mètres plus haut, ben, on s'est fait vraiment jeter comme des malpropres. » Et la patronne la regarde un peu étonnée et lui dit: « Ah bon, c'est curieux ça. Moi, je n'ai rien contre les Africaines. Mon étudiante s'appelle Rachel Akitayeba et elle est originaire de Côte d'Ivoire. » Voilà un exemple qu'aurait aimé Goffman, la réversibilité du stigmate. Qu'est-ce qui dérange? La couleur de peau ou le handicap lourd? Voilà. Erving Goffman était un coquin. C'est quelqu'un qui a. Un des grands biographes de Goffman, Yves Winkin, dit que toute l'œuvre de Goffman est une autobiographie. Et effectivement, si on reprend l'histoire de Goffman, les origines juives ukrainiennes de ses parents, son installation du côté de Winnipeg, ses études à Chicago, puis ses différents emplois, son affiliation à ce qu'on a appelé la deuxième école de Chicago avec Becker, mais surtout ce que racontent les biographes qui l'ont connu ou qui l'ont interviewé un peu, c'est que c'était quelqu'un qui était tout le temps dedans-dehors. Dedans-dehors. Et ça, on le retrouve aussi dans l'œuvre de Goffman. Coquin, pas si sociable que ça. On raconte qu'il acceptait toutes les invitations, mais il partait très tôt. Voilà. Par contre, il était curieux. Hein, curieux. Et par exemple, Becker, ou Castel, ou Bourdieu, qui ont eu la chance de le raconter, racontent à quel point il les questionnait jusqu'à plus soif. C'était quelqu'un qui avait aussi un humour qu'on retrouve beaucoup dans son œuvre. Winkin, toujours le biographe de Goffman dit de lui, et a fait, ça fait école, que c'était le Woody Allen de la sociologie. C'est-à-dire qu'il avait finalement ce même un peu humour d'écorché vif. Voilà. Je vous ai trouvé deux petits exemples d'humour goffmanien, hein, l'un dans les rites d'interaction, l'autre dans les arrangements avec les arrangements du sexe. Dans le premier, il évoque un chasseur qui tue un daim en dehors de la période de chasse et qui commet une infraction avec la difficulté de l'acteur, s'il est pris ou s'il n'est pas pris. Et voilà ce que Goffman dit. Notons aussi que même si personne ne devait jamais découvrir qu'un daim a été abattu, à l'exception du chasseur, et on peut le supposer du daim, une infraction secrète n'en a pas eu moins eu lieu. Ou alors un autre comme ça, humour un peu goffmanien dans les arrangements avec le sexe. Dans tous les cas, il devrait être parfaitement clair que le genre et la sexualité ne sont pas une seule et même chose. De mon point de vue du moins, un garçon de 7 ans qui propose vaillamment d'aider sa grand-mère à porter ses lourds paquets n'est pas en train d'essayer de la courtiser. Voilà, donc on a comme ça des petits clins d'œil de Goffman. La méthode de Goffman, elle est très proche de la question du travail social. Il a d'abord été nourri par l'ethnométhodologie, hein. Il a été un élève de Garfinkel. On connaît son travail de thèse aux îles Shetland, le travail pour asile, entre autres à l'hôpital psychiatrique Sainte-Élisabeth, mais aussi tout le travail qu'il a fait autour des tables de poker, puisque c'était un grand joueur de poker. C'était aussi quelqu'un qui était quand même dans la première partie de sa vie, en tout cas avec sa première épouse, un aristocrate, Christophe le rappelait, qui a beaucoup spéculé, qui a fait beaucoup d'argent, voilà, etc. Donc il avait aussi ce côté un petit peu ambigu. On dit aussi que c'était quelqu'un qui demandait très cher dans ses interventions ou ses conférences, voilà, par exemple. Mais en même temps, Robert Castel me confiait qu'il a été accueilli, Castel a été plusieurs fois accueilli chez Goffman, chez lui. Et dans une interview que j'avais faite de Robert Castel me disait, si tu savais à quel point il était crade. Et du coup, que ça m'avait marqué, je me suis dit, tiens, que Goffman soit aussi comme ça identifié comme quelqu'un d'un peu négligé. Tiens, voilà, négligé, aristocrate en même temps, voilà. C'est toujours ce côté un peu dedans-dehors. Voilà. Une autre anecdote, hein, par exemple, de Goffman. Il entre dans une cantine et s'assied à une table où un employé a déposé son casse-croûte, le temps d'aller chercher une tasse de café. Goffman prend le casse-croûte comme s'il s'agissait du sien et commence à manger le plus naturellement du monde. L'employé revient et découvre la scène. Il est un peu interdit. Il n'ose pas poser la question à Goffman, mais vous vous êtes pas trompé de casse-croûte? Et Goffman continue. Il observe, mine de rien, comment cette personne perd ou non la face. Et, si ça, c'est pas de l'observation participante, je ne sais pas. Voilà. Donc, effectivement, Goffman va nous inviter à essayer d'aller au plus petit, hein. C'est Bourdieu d'ailleurs qui a repris la question au-delà de la microsociologie, de l'infiniment petit, du banal. Hein. Je pense à toutes ces pages où Goffman raconte comment il observe les gens, les passants. Simplement, comme si y a rien de plus banal que de marcher dans la rue. Et ben non, pour Goffman, c'est pas banal. C'est-à-dire tout dans est-ce que je vais laisser la place, est-ce que je vais marcher derrière, à côté, est-ce que je me fais bousculer, est-ce que je souris, est-ce que je regarde le passant qui vient vers moi, etc. Tout est objet pour Goffman d'interrogation. Et là où peut-être Goffman rejoint aussi la question du travail social, c'est dans son hypothèse pour s'intéresser à la différence et aux différents, notamment aux stigmatisés, dans toutes les interactions. Et voilà ce qu'il dit, que je trouve absolument lumineux. Notre hypothèse est donc que pour comprendre la différence, ce n'est pas le différent qu'il convient de regarder, mais bien l'ordinaire. La question des normes sociales demeure certes au centre de l'étude, mais notre intérêt ira moins à ce qui s'écarte extraordinairement du commun qu'à ce qui dévie communément de l'ordinaire. Ça, je le rappelle aux étudiants en travail social en première année. Pourquoi? Parce que ça vous parlera peut-être, tous ces étudiants qui arrivent pour devenir éducateurs ou assistants sociaux et qui ont envie de changer le monde, hein, ben quand ils arrivent en première année et qu'on leur dit, bon, maintenant, il va vous falloir vous chercher un lieu de stage, ben alors ils veulent faire des stages avec qui? Avec les taulards, avec les prostituées, avec les toxicos, avec les alcoolos. Je dis, eh oh, il y a aussi les petits-enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ou par le champ. Non, 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 ils veulent les choses qui font le buzz. Voilà. Alors évidemment, il y a une question qui a un peu traversé aussi nos échanges, c'est, et Quentin le rappelait tout à l'heure, la position politique de Goffman. Position politique. Elle est un peu ambiguë, hein. Alors c'est vrai que dans le texte que Christophe Pittet nous a mis sur la clé USB qu'il nous a envoyée de William Ganson, il rappelle qu'il y a comme ça une interview où on demande à Goffman ses opinions politiques, et c'est très intéressant. Goffman est étonné, il ne s'attend pas du tout à cette question. Il dit, mes opinions politiques? Il marque une pause. Je ne pense pas avoir d'opinions politiques. Il marque une pause et puis finit par dire, si je dois en avoir une, je suis anarchiste. Oui. Vinkin nous offre encore peut-être une autre piste pour essayer de comprendre la position politique de Goffman. Il dit, Goffman parle le social comme Freud parle l'inconscient. Ça, c'est intéressant parce que si je peux me permettre cette définition de l'inconscient, et peut-être du social goffmanien, c'est ce qui nous échappe et ce qui nous meut, c'est-à-dire ce qui nous met en mouvement. Voilà. Goffman dit autre chose dans une de ses... Il dit, je ne m'occupe pas de la structure de la vie sociale, mais de la structure de l'expérience individuelle de la vie sociale. Il s'intéresse pas au côté un peu étatique, mais il s'intéresse à comment l'individu va se dépatouiller avec ça. Et du coup, il y a toujours cette espèce de mouvement individu-collectif chez Goffman, qui est quand même aussi vraiment intéressant. Et puis, d'une certaine manière, Goffman, et ça pourrait être intéressant, d'ailleurs, ce matin, on évoquait pour le travail social, la sémantique du travail social, hein, à quel point le travail social, l'intégration, l'insertion, l'assimilation, l'inclusion, etc. Ben, Goffman est très proche de ça, hein, c'est un linguiste, il s'intéresse aux mots et à la signification des mots, hein. Il s'intéresse aussi à la banalité apparente des mots. Hein. Je pense par exemple à ces images où il évoque une simple conversation de bistrot, voilà, le serveur qui vient vous demander, vous voulez quoi? Je veux un café, un croissant. La manière dont on dit je veux, j'aimerais, je souhaite, un café, tout devient l'ordre de l'interaction. Finalement, la méthode de Goffman, ça part de l'évidence du fait. Schlack, c'est factuel, c'est méticuleux, c'est parfois un peu chiant le tome 1 de la mise en scène de la vie quotidienne. Moi, des fois, punaise, c'est un peu obsessionnel. Voilà. Le tome 2 est quand même beaucoup plus léger, hein, mais parce qu'il part de l'évidence du fait pour aller vers l'évidence du sens. Et ça, c'est tout le travail de Goffman, et c'est tout le travail qu'on aimerait bien peut-être réussir aussi dans le travail social. Alors, bon, on n'a pas parlé, c'est dommage que David n'était pas là, parce que le breton, il nous en aurait parlé mieux que moi, hein. C'est quand même le courant auquel on rattache Goffman, celui de l'interactionnisme symbolique. Ça, c'est encore un mot qu'on n'a pas employé aujourd'hui. Voilà. Bah déjà, on a parlé d'interaction, évidemment, ce qui intéresse Goffman, d'ailleurs, on va voir que l'interactionnisme symbolique, ça le fait doucement rigoler, Goffman, hein. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est déjà l'interaction, et l'interaction, c'est pas simple, hein, parce que on le voit bien, il y a quand même quelques-uns de nos concitoyens, ermites et anachorètes, à qui ça dit pas grand-chose, l'interaction, hein, parce que l'interaction, et nous, les travailleurs sociaux, on le sait, c'est quand même aller vers l'autre. Hein, et l'autre, c'est l'altérité. Et l'altérité, ça a la même étymologie qu'altération. Donc voilà, donc on va se faire altérer. Voilà. Et puis, cet individu qu'on a en face de nous, ben Goffman nous le rappelle, la nature d'un individu que nous lui imputons et qu'il s'attribue est engendrée par la nature de ses affiliations. Voilà, déjà, on se retrouve avec tout ça. hein, devant le bénéficiaire, comme vous l'appelez en Suisse. Voilà. Et puis, il y a l'interactionnisme symbolique. L'interactionnisme symbolique, c'est peut-être quelque chose qui va un peu au-delà des interactions simples, dans la mesure où le mouvement interactionniste voudrait voir comment l'acteur participe de la construction du sens. Hein, on pourrait dire, voilà. Et du coup, peut-être pour vous donner un exemple, là encore. Il y a quelques années de cela, je fais mes courses dans un supermarché et une dame d'une quarantaine d'années avec ses enfants fait ses courses également. Elle me regarde, semble me reconnaître, me reconnaît de son point de vue à elle en tout cas, me saute au cou et me fait la bise. Je ne sais pas qui c'est. Et là, je perds la face. C'est-à-dire, je suis très emmerdé. Si c'est une ex, ça la fout mal. Si c'est une étudiante, je m'étonne. Si c'est un collègue, c'est pas cool. Voilà. Donc, je me dis peut-être qu'elle me prend pour un autre, j'ai un sosie. Voilà. Et je discute un peu pour essayer. Voilà. Je fais ce que Goffman raconte, hein, de l'interaction. J'essaye de comprendre si c'est moi qui me trompe ou si c'est elle. Et en fait, je m'aperçois que ben non, c'est moi qui me trompe, parce qu'effectivement, on se connaît. Sauf que moi, je ne pouvais pas la reconnaître, parce que c'est quelqu'un que j'avais accueilli lorsque j'étais directeur d'un foyer d'adolescents. Et donc, cette adolescente que j'avais accueillie à 14 ans et que je retrouve 25 ans plus tard dans un supermarché, ben, je ne pouvais pas la reconnaître, la mère de famille, mais moi, quelques rides en plus, ben, elle m'avait reconnu. Et elle me raconte ce truc, on discute, on échange les souvenirs, elle me dit, vous vous rappelez le jour de mon admission? Bah, tu parles que je me rappelais de l'admission. Non, parce que ce jour-là, vous m'avez dit quelque chose, ça a changé ma vie. Bah, merde, voilà. Et elle me rappelle qu'en fait, elle avait été admise dans ce foyer, elle était fugueuse, parce que ses parents n'en pouvaient plus de ses fugues réitérantes. J'avais reçu les parents, la mère en pleurs, le père en colère, qui m'expliquaient que leur fille avait une petite chambre à l'étage, mais qu'en ouvrant la fenêtre, elle avait juste 1 mètre à sauter pour foutre le camp, et que donc elle fuguait parce que ses parents lui interdisaient de sortir le soir à 14 ans, et donc elle prenait le droit en partant par la fenêtre au grand désespoir de sa mère et la grande colère de son père. Donc, son père m'avait expliqué tout ça, qu'il y avait des conseils de famille, que la jeune fille promettait de ne plus fuguer, et puis que 2 heures après, en montant dans sa chambre, la fenêtre était ouverte et l'oiseau s'était envolé. Et à la fin de cette explication, il y avait une ambiance de merde dans mon bureau, et j'ai balancé une phrase à l'adolescente pour détendre l'atmosphère. Et cette phrase me revient en boomerang 25 ans après. Qu'est-ce que je lui avais dit? Vous allez voir, c'est très con, hein. Je m'étais tourné vers elle, j'avais dit, écoutez, mademoiselle, ici, vous n'aurez pas besoin de passer par la fenêtre, la porte est toujours ouverte. Et 25 ans plus tard, cette adolescente devenue mère de famille me dit, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que je pouvais passer à autre chose. Alors, bon, c'est une plutôt belle histoire, hein, c'est-à-dire que voilà. Une interaction qui a un effet réel et mesurable, mais qu'on n'a pas pu mesurer soi-même sur le champ, c'est ça l'interactionnisme symbolique. Voilà. Et dans la relation d'aide, et dans la relation, dans le travail social, ben, il y en a tout le temps, hein, c'est-à-dire, et sans doute à notre insu, nous disons des choses, nous avons des actes et des paroles qui font à notre insu du bien à l'usager, au bénéficiaire, et parfois, nous avons des actes et des paroles qui, à notre insu, plombe encore un peu plus le bénéficiaire. C'est ce qu'on appelle parfois la violence blanche, hein, ou la banalité du mal. Hein. J'évoquais tout à l'heure la préfecture et ses atrocités. Lors de dernier accompagnement d'un jeune migrant, je me retrouve face à une fonctionnaire polie, courtoise, policée. À toutes les questions que le jeune homme lui pose, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous répondre. Bon, elle n'est pas maltraitante. Elle est juste dans la banalité du mal d'Hannah Arendt. Voilà, c'est tout. Voilà. Elle détruit. Ça, c'est aussi quelque chose que peut-être Goffman aurait aimé analyser du côté. Voilà. Alors, c'est vrai que sur l'interactionnisme symbolique, il a botté un peu en touche à une interview avec Winkin. Il dit ça, il dit « J'ai été formé par Hughes et présentation de soi est réellement de la psychologie sociale et structurale à la Hughes. Nous avons formé une sorte de groupe solidaire. On les a tous appelés des interactionnistes symboliques. Je suppose donc que j'appartiens à l'interactionnisme symbolique, mais rappelez-vous que ce n'est qu'une étiquette. » Vous voyez, Goffman, toujours un pied dedans, un pied dehors. Alors évidemment, peut-être le concept que Goffman a le plus inventorié, mais avec d'autres, hein, de l'école de Chicago, c'est évidemment le théâtre du monde. Et ce théâtre, il va très loin, il est corrélé à toutes ces recherches, hein. La vie sociale est un théâtre, mais un théâtre particulièrement dangereux. À ne pas marquer la déférence qu'exige son rôle, à se tenir mal, à trop se détacher des autres comédiens, l'acteur, ici, court de grands risques. Celui d'abord de perdre la face, et peut-être même la liberté. Les hôpitaux psychiatriques sont là pour accueillir ceux qui s'écartent du texte. Voilà, donc il nous rend attentif à ce que nous travaillons tous les jours aussi dans le social, hein, c'est-à-dire les codes, les normes, les conformités, les masques, disaient certains, hein. On a eu un grand débat à l'Assemblée nationale, c'était l'année dernière, parce que à deux reprises d'ailleurs, deux députés de bords différents n'étaient pas arrivés avec le complet veston-cravate et se sont fait virer. Hein. Voilà, parce qu'il y a un code même pour l'Assemblée nationale, le rôle. Voilà. Le rôle, c'est d'abord le statut du sujet. Et Goffman est un précurseur, d'ailleurs, d'une certaine manière. Tu nous l'as rappelé, Christophe, en nous faisant découvrir cette tentative de roman de science-fiction qu'il avait tentée. Voilà. Mais dans son œuvre, sur des choses moins littéraires, il était très précurseur. Hein. On va le voir aussi dans l'arrangement et dans la question du genre. Il était précurseur aussi sur quelque chose que les sociologues ont identifié beaucoup plus tard de nos sociétés, c'est que nous sommes aujourd'hui dans des sociétés où l'identité se lie à fleur de peau. C'est-à-dire, je suis d'abord ce que je montre. Et c'est ça que Goffman vient nous dire tout le temps. Et dont il souffre d'ailleurs lui-même, hein, parce qu'il faut se rappeler que Goffman lui-même était parfois un peu mal à l'aise dans son corps, il était assez petit de taille, etc. Voilà. Mais Goffman rappelle quand même ce qu'on a un peu travaillé ce matin, c'est que le rôle n'est qu'une suggestion et que chaque acteur peut l'interpréter, peut en faire son affaire. J'aurais aimé, par exemple, on a évoqué les gens qui ont eu la chance de rencontrer Goffman, moi j'aurais bien aimé que Goffman puisse rencontrer Jacques Arduano, par exemple. Pour échanger, Arduano était quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur la logique de l'acteur, mais en la battant en brèche, c'est-à-dire en disant oui, on nous demande d'être acteur de nos vies et même acteur de nos morts, quoi. Mais en fait, on joue toujours des rôles, c'est-à-dire on ne nous propose jamais d'être auteur. Voilà. Un jour, il faudrait qu'on nous propose d'être auteur. Et ça aurait été intéressant que Arduano discute avec Goffman de cette chose-là. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ce théâtre du monde, c'est qu'il faut assurer la représentation. Assurer la représentation, mais pour l'assurer, il faut écarter tous ceux qui peuvent gêner la représentation, les fauteurs de troubles. Hein, voilà. Alors, c'est intéressant parce que ça peut être plein de gens suivant les situations et suivant les représentations. Ça peut être les enfants qu'on va écarter pour pas qu'ils gênent les adultes. Ça peut être le copain qui est un peu trop porté sur la boisson qu'on va pas inviter parce que c'est un repas sérieux pour faire autre chose, etc. Voilà. Ou l'handicapé qu'on va pas. Alors, ça, par exemple, lorsque j'étais encore sur le terrain du travail social, cette difficulté des éducateurs s'occupant de personnes handicapées qui vivent un deuil dans leur famille, mais qui ne sont pas conviés aux funérailles. Hein, parce que des fois, que non, ça va faire tâche. Ou qui ne sont pas conviés au mariage non plus. Hein, voilà. Qui ne sont pas confiés au rituel conforme. Avec toute la difficulté, finalement, pour les travailleurs sociaux, d'essayer de parer à ce désarroi. Au désarroi de ces personnes. Voilà. Mais Goffman, sur le théâtre du monde, est quand même assez. Dans l'œuvre de Goffman, il y a quelque chose d'extraordinaire quand même, c'est son incroyable modestie. Voilà, c'est-à-dire, à chaque fois, il s'excuse presque d'avoir osé dire quelque chose. Voilà. Et dans le théâtre du monde, quand même, il vient nous dire que bon, bah, finalement, le monde n'est peut-être pas un théâtre. Bah, c'est quoi? Alors quoi? Et il dit, bah, les échafaudages, dit-il, après tout, ne servent qu'à construire d'autres choses et on ne devrait les dresser que dans l'intention de les démolir. Alors, ce qui m'a branché aussi chez Goffman, bien sûr, c'est la question des rites, hein, puisqu'on est quand même dans un monde aujourd'hui de la fin des grands invariants anthropologiques auxquels on croyait comme étant les vecteurs de l'humanité. Hein, voilà, on croyait que tous nous avions le tabou de l'anthropophagie, que nous avions le tabou de l'inceste, que nous avions tous les mêmes structures élémentaires de la parenté. Puis voilà, on a toujours trouvé les exceptions qui confirmaient la règle, mais peut-être les rites. Les rites, mais au sens de Goffman, pas seulement pas les rites des Papous de Nouvelle-Calédonie, les rites au sens vraiment goffmanien, c'est-à-dire simplement y mettre les formes. C'est-à-dire comment nous y mettons les formes simplement pour pouvoir un petit peu vivre ensemble. Je ne reviendrai pas sur Asile, mais j'ai regretté évidemment, mais on peut pas être, n'ayant pas le don d'ubiquité, j'ai pas pu faire partie des deux ateliers, mais c'est vrai que Asile nous renvoie aussi à des projets du travail social. Hein. Moi-même, j'ai été embauché pendant 3 ans par le ministère de la Justice français pour faire un audit des centres d'éducation renforcée. Et j'ai vu dans les centres d'éducation renforcée, puis ensuite dans les centres éducatifs fermés, quelque chose, des choses que Goffman décrit dans Asile, hein, à Sainte-Élisabeth, notamment la dépersonnalisation. Alors, évidemment, avec des fins pédagogiques, c'est-à-dire on va enlever la panoplie de kékés de banlieue au sale gosse de quartier qui vient avec tout son attirail de graines de délinquants pour lui donner un jeans lambda et un t-shirt lambda et pour le cloner un peu avec les autres, hein, voilà, en pensant que ça va avoir des vertus pédagogiques. Et puis évidemment, on le rappelait, et les collègues d'Ottawa le rappelaient aussi, le travail énorme de Goffman autour d'Asile a nourri le courant d'antipsychiatrie. J'ai envie de dire quand même que l'antipsychiatrie n'a pas fait que du bien, hein. Elle a fait aussi énormément de dégâts, hein, notamment en Italie, avec quelque chose que d'autres ont pu dénoncer après, c'est-à-dire une désinstitutionnalisation massive, mais qui crée de la non-assistance à personne en danger. C'était Jean Houry qui disait que la moitié des clochards à Paris étaient des malades mentaux, donc pris en charge. Voilà. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi dans les tentatives de certains lieux bienveillants de l'antipsychiatrie ou dans des lieux comme ceux de la psychothérapie institutionnelle pour essayer justement de tenir compte de ce qu'avait dénoncé Goffman et essayer de créer des institutions qui ne soient pas totalitaires. Et par exemple, pour avoir été plusieurs fois à Laborde, qui était une clinique psychiatrique un peu emblématique de ce mouvement de psychothérapie institutionnelle, il y avait quelque chose qui aurait sûrement intéressé Goffman. C'est-à-dire le fait que quand on arrive, rien ne vient permettre d'identifier la scène, d'identifier les acteurs, d'identifier les rôles. Il n'y a pas de blouse blanche, il n'y a pas de trousseau de clés, il n'y a pas de badge. Et du coup, lorsqu'on arrive, ben, qu'est-ce qui nous reste à faire? Il nous reste à être un peu goffmanien, hein. C'est-à-dire à poser la question que seuls les enfants de moins de 5 ans et les fous osent poser, t'es qui toi? Puisque rien ne vient dire qui tu es. Et là, on est dans des interactions extraordinaires. Alors c'est vrai que ce qui m'a le plus intéressé chez Goffman, c'est Stigmate, c'est celui qui m'a sans doute le plus nourri, parce que déjà là, ce qui intéresse Goffman, c'est pas celui qui est stigmatisé ou celui qui ne l'est pas, c'est comment ça va interagir. Et là encore, on voit son humour à la Woody Allen, hein, quand même, parce que les stigmates, Goffman, les monstruosités du corps, les tares du caractère, les stigmates tribaux, c'est quand même, il y va trash. Mais là où il nous rend vraiment très, très attentif, c'est cette distinction qu'il fait et qui parle aussi par rapport à nos emplois, entre les discrédités et les discréditables. Les discrédités étant ceux qui sont stigmatisés, mais donc le stigmate est tellement visible ou tellement connu de tout le monde qu'il y a, voilà, il y a juste à faire avec. Et puis le discréditable, qui est plus intéressant pour le Erving Goffman coquin, quoi, c'est-à-dire quelles vont être les stratégies mises en place pour éventuellement se taire, dissimuler, être dans cette duplicité. Voilà. Et il invente un concept je trouve qu'on n'utilise pas assez, enfin que j'ai pas entendu souvent utiliser en sociologie, et qui est quand même extraordinaire, qui résume aussi presque la question éternelle du monde, c'est ce que Goffman appelle le syndrome de Cendrillon. Hein, le syndrome de Cendrillon, c'est quoi? Bon, vous connaissez tous le conte de fées, hein, donc toute l'histoire de la pauvre gamine, voilà, Cendrillon reléguée à la vaisselle par sa marâtre, tout ça n'intéresse pas trop Goffman. Le fait que le parrain de Cendrillon s'appelle Christophe Pité et a une baguette magique pour transformer tout et le permettre d'aller au bal n'intéresse pas trop Goffman non plus. Ce qui intéresse Goffman, c'est la condition. C'est-à-dire, aux 12 coups de minuit, taillot, taillot. Hein, parce que le charme va s'arrêter. Mais c'est quoi le charme va s'arrêter? Tu vas apparaître tel que tu es en réalité. Le syndrome de Cendrillon, le syndrome du discréditable, c'est ne jamais prendre le risque d'apparaître sur la scène tel qu'on est en réalité. Voilà. Et donc, du coup, il va y avoir des stratégies de dissimulation qui sont extraordinaires et qu'on connaît bien en plus dans le travail social. Pour vous donner une stratégie de dissimulation, mais terrifiante, c'est que j'avais découvert en lisant l'autobiographie du jeune sociologue Édouard Louis. Et donc, il a écrit son autobiographie qui s'appelle Pour en finir avec Lady Bellegueule. Et dans cette autobiographie, Édouard Louis raconte que son enfance a été une horreur. Il est né dans une famille ouvrière terrifiante. À l'aube de la puberté, il se rend compte qu'il préfère les garçons. Et manque de bol, alors son père n'arrête pas de lui dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Parce qu'en plus de sentir qu'il préfère les garçons, il est un peu efféminé. Donc même sa mère l'agresse en lui disant, dans la famille, tout le monde a des couilles, hein, sous-entendu, sauf toi. Voilà, et donc, du coup, il n'en peut plus. Et en arrivant au collège, ça s'accentue encore parce que son côté efféminé, le fait qu'il est harcelé par les collégiens de manière hallucinante, et il se dit, il faut que je trouve quelque chose pour survivre. Et ce qu'il va trouver est terrifiant, c'est-à-dire qu'il y a dans le collège un garçon encore plus efféminé que lui. Un jour, il en profite, ce garçon plus efféminé est dans la cour de récréation, tout le monde est là, même les harceleurs d'Édouard Louis. Et Louis interpelle le garçon plus efféminé, très haut, très fort, en lui disant « Ferme ta gueule, pédale !» Tout le monde rigole, et Louis écrit « L'espace d'un instant, j'ai déplacé la honte sur lui. » Ça, c'est Goffman. La question de la honte, la question de la contamination, c'est le cœur des théories goffmaniennes. Et du coup, ça nous amène aussi à la question des normes, hein, qui sont quand même tellement fluctuantes et tellement changeantes, hein, et on le voit avec le projet de loi du canton de Fribourg. Donc, Goffman, lui, l'évoque pour les États-Unis dans les années 60. Et voilà quand même cette phrase que vous connaissez sûrement parce qu'elle est hyper célèbre, mais qui est incroyable. On peut affirmer sans absurdité qu'il n'existe en Amérique qu'un seul homme achevé et qui n'est pas à rougir. Le jeune père de famille, marié, blanc, citadin, nordique, hétérosexuel, protestant, diplômé d'université, employé à temps plein, en bonne santé, d'un bon poids, d'une taille suffisante et pratiquant un sport. Tous les autres, out. À commencer, vous l'aurez noté, par la moitié de l'humanité, les femmes, puisque être une femme déjà, c'est pas normal. Voilà. Et quand même, Goffman, alors ça permet aussi peut-être de prolonger les échanges de tout à l'heure par rapport aux interventions de nos amis d'Ottawa. Goffman quand même évoque le travail social. Il évoque le travail social parce que les travailleurs sociaux peuvent être initiés Voilà. Ils peuvent être. Et d'une certaine manière, il l'évoque aussi, même dans la présentation de soi, dans la question du rôle social. C'est-à-dire, à un moment donné, dans Stigmate, il dit, une première façon d'être initié consiste à travailler dans un établissement qui pourvoit aux besoins des personnes affligées d'un certain stigmate ou bien qui se charge d'exécuter les actions que la société engage vis-à-vis d'elle. Voilà. Donc, il est vraiment. Ouais. Et puis, quand même, ce qu'on retrouve aussi et qui le rend très proche de nous, hein, c'est son amour inconditionnel des humbles, des démunis, des pauvres, des toxicos, des joueurs inconditionnels, etc. Et puis, un texte traduit en français plus tardivement, c'est celui qui a été traduit sur l'arrangement des sexes, et bon, qui est un petit peu. Alors, Quentin me demande d'où je sers la citation de Goffman, laquelle? Celle sur la normalité et celle sur le travail d'initié des travailleurs sociaux sont toutes les deux tirées de Stigmate. Ouais. Et donc, dans ce texte sur le genre, qui a été traduit plus tardivement en français, là encore, Goffman est extraordinairement précurseur. Hein. C'est-à-dire, d'abord, il évoque la question de l'identité de genre, alors que les gender studies sont vraiment encore balbutiantes. Il pose, alors il y a des choses plus classiques, hein, c'est-à-dire il étrit tous les rites de virilité, mais que David Le Breton a encore fait tout récemment pour la France. Il est très imbriqué sur la question du culturel, hein, en expliquant, en étant d'ailleurs très proche de Margaret Mead, hein, c'est-à-dire que le tempérament n'est pas construit biologiquement, il est construit culturellement. Et donc le genre, c'est pareil. Et il dit cette chose quand même extraordinaire, parce que les féministes n'ont pas trop toujours aimé ce texte qui date un peu par certains aspects, mais quand même, quand il dit le genre est l'opium du peuple et non la religion. C'est incroyable par rapport aussi à la question sociale aujourd'hui autour du genre. Voilà. Et sur la question du genre, quand même, il évoque cinq pistes de réflexion. Alors, elles sont peut-être un peu datées, mais elles sont quand même assez fulgurantes. Voilà ce qu'il dit. J'ai évoqué cinq exemples de réflexivité institutionnelle, cinq caractéristiques de l'organisation sociale qui ont pour effet de confirmer nos stéréotypes de genre et les formes dominantes d'arrangement entre les sexes. Cinq. Premièrement, la division du travail selon les classes sexuelles. On peut en dire quelque chose dans le travail social. Les frères et sœurs comme agents de socialisation. Et là, ça vient dire quand même que nous sommes construits socialement et culturellement par nos éducations. Les pratiques relatives aux toilettes, l'apparence et la sélection à l'embauche, et notre système d'identification. Voilà, donc du coup, peut-être pour conclure, je ne sais pas, il faudrait conclure un peu. Ouais. Donc peut-être pour conclure, alors je voudrais juste faire, peut-être ce sera le mot de la conclusion, une citation qui n'est pas de Goffman. Et une anecdote. Alors l'anecdote, elle est toute simple. C'est il y a quelques années, j'ai fait l'expérience un peu chiante d'une hospitalisation pour des problèmes de dos, peu importe. Mais j'avais de très bons médecins et notamment un médecin qui m'avait dit, t'as pas besoin d'être opéré, ça va se remettre tout seul, etc. Mais j'ai été hospitalisé quelque temps. Et un soir arrive le médecin-chef du service avec ses internes. Un médecin-chef qui ne regarde même pas les passants, puisque nous sommes tous réifiés. C'est l'appendicite du 17, la colectomie du 18, etc. Voilà. Il regarde les constantes, les internes qui font. Voilà, c'est le prof, hein, c'est lui qui va nous noter, etc. Il dit même pas bonjour, puis il s'arrête curieusement devant mon lit, il regarde, il me fait bon, on vous opère demain, et il passe à l'autre lit. Et je lui dis non. Il se retourne, c'est-à-dire qu'un objet de soin vient de dire quelque chose. Voilà. Et je lui dis, ben non. Il me dit, mais je suis le chef de service. Vous voyez, il se prend pour son statut. Jean Houry disait, Se prendre pour son statut, c'est la pire des aliénations. Un médecin-chef qui se prend pour un médecin-chef, il est foutu. Voilà. Et c'est un petit peu. Voilà, c'était une anecdote aussi sur la question du rôle. Et puis, pour terminer, une citation d'Agatha Christie dans la bouche d'Hercule Poirot. Car le point de vue fait la différence. Je vous remercie. Tout à l'heure, qui disait qu'il avait pas vu ou qu'il n'avait vu qu'une seule fois un travailleur social discriminer un bénéficiaire et d'ailleurs être licencié pour cela. C'est vrai que dans la question du rôle, à part quelques faits divers, parce qu'il y a quand même quelques faits divers dans le travail social, hein, et on voit d'ailleurs que quand ça arrive dans les journaux, un travailleur social incriminé, hein, qui n'a pas tenu le rôle dévolu, ben c'est toujours soit l'argent, le sexe, la mort. Hein, voilà, c'est toujours pour une de ces trois raisons, quoi. Mais à côté de ça, il y a quelque chose quand même de plus diffus, qui c'est. Voilà, et c'est là que Goffman peut nous aider un peu, hein, parce qu'on n'est pas des surhommes, on n'est pas parfait, on peut avoir nos états d'âme, nos émotions, nos imperfections, nos erreurs, nos maladresses, mais c'est ces petites choses qui viennent de temps en temps faire effraction, et voilà, des fois je me suis engueulé avec des éducateurs que j'aime bien récemment. C'était une petite bande de jeunes éducateurs qui, lors d'une réunion de synthèse dans un foyer d'enfants, avaient proposé de prolonger le placement de ce petit garçon alors que ses parents demandaient un retour en famille. Et quand j'avais demandé à ces éducateurs de justifier leur choix, ils avaient justifié leur choix, mais parce que les parents n'ont pas assez d'argent pour lui offrir un steak tous les jours et des vacances. Je me suis dit, c'est pas une raison pour pas rentrer en famille. C'est de la morale petite bourgeoise, quoi.